scepticisme scientifique, le balado de la science et de la raison. Épisode 91 pour le samedi 26 février 2011, Feeling the Future. Donc dans cet épisode, nous allons discuter de l'article de Daryl Bem, du psychologue Daryl Bem, qui s'intitule Feeling the Future, Experimental Evidence for Anomalous Retroactive Influences on Cognition and Affect, qui est donc un article de parapsychologie qui prétend démontrer l'existence du psy. Cet épisode sera un peu particulier parce qu'on peut dire qu'il va se composer de deux parties. Dans la première partie, je vais présenter, introduire, disons, le sujet et expliquer les diverses réactions qui ont eu lieu autour de la publication de cet article. Et dans un deuxième temps, j'ai demandé à Nicolas Gauvry de commenter les aspects, disons, statistiques impliqués dans cette recherche. Donc, dans la deuxième partie de l'épisode, exceptionnellement, vous aurez donc Nicolas Gauvry qui rajoutera une seconde couche de commentaires à mes commentaires. Je dois dire que l'épisode sera peut-être un peu plus technique, en tout cas, surtout dans la partie de Nicolas Gauvry. Généralement, il fait des épisodes plutôt d'introduction ou de scepticisme 101, donc d'introduction à la zététique ou au scepticisme scientifique. Mais ici, comme je lui ai demandé de commenter sur les statistiques qu'on l'en trouve dans cette publication de Daryl Bem, ça sera un chouïa plus technique que d'habitude. Vous voilà prévenus. Daryl Bem, c'est un psychologue et il est professeur émérite à l'université Cornell. Donc, bon, il a une bonne réputation dans le domaine de la psychologie sociale. Mais parallèlement à ses recherches en psychologie sociale, il a, tout au long de sa carrière, fait aussi des recherches en parapsychologie. Depuis longtemps, donc, les parapsychologues essayent de rentrer dans la mainstream, dans la science mainstream. Ce qu'ils publient, évidemment, dans des revues de parapsychologie. Mais on sait que ces revues de parapsychologie sont très peu lues par le reste de la communauté scientifique. Et dans les systèmes de cotation, elles sont extrêmement mal cotées. Celles qui évaluent l'impact des publications, elles sont vraiment très mal cotées. Mais donc, évidemment, un des objectifs pour les parapsychologues, c'est de publier dans des revues de psychologie plus prestigieuses. Et déjà en 1994, Daryl Bem avait publié un article autour du Gansfeld qu'il avait coécrit avec Charles Honnerton, qui s'intitulait « Does Psi Exist? Replicable Evidence for an Anomalous Process of Information Transfer ». Et il avait publié cela dans la revue Psychological Bulletin, qui était déjà une bonne revue. Après, bon, il y a eu tout le débat autour du Gansfeld, je ne vais pas rentrer là-dedans maintenant, mais c'est pour dire qu'on peut dire que Daryl Bem en est à son second coup d'essai de tenter de faire accepter à la communauté scientifique mainstream que le psy existe. Le nouvel article de Daryl Bem, donc Feeling the Future, est cette fois-ci publié dans la revue Journal of Personality and Social Psychology, qui est une revue prestigieuse en psychologie. À noter que la revue a décidé de publier l'article parce que celui-ci a passé ce qu'on appelle donc la revue par les pairs, le peer review process, mais elle s'est quelque peu distanciée de l'article en disant qu'elle ne prétendait pas que cet article prouvait l'existence du psy, mais qu'elle ne voyait pas de raison valide de ne pas le publier. Et dans le même numéro, ils ont donc publié aussi un article de Wagenmakers, Wetzels, Borsbaum et Vandermas qui discutent de l'analyse bayésienne des résultats, donc qui lui s'intitule Why Psychologists Must Change the Way They Analyze Their Data, The Case of Psi. Donc il y a un peu un article en réponse à l'article, mais qui est un commentaire sur les analyses statistiques qu'il faut faire en psychologie et particulièrement qu'il faut adapter des analyses bayésiennes. Et donc dans leur article, en appliquant donc des analyses bayésiennes, encore une fois, pour les analyses statistiques, Nicolas Gauvry en discutera en détail plus loin, donc je ne vais pas rentrer trop là-dedans. Mais juste pour dire, donc, dans cet article, en réanalysant les résultats, en adaptant donc, des statistiques bayésiennes, cette fois-ci, eux obtenaient des résultats non significatifs. Donc d'emblée, il y avait déjà dans les pages même du journal une sorte de débat autour de est-ce que les analyses statistiques réalisées par Daryl Bem sont les plus adaptées ou les plus appropriées pour déterminer la position la plus en adéquation avec la réalité en la matière. Pour décrire un peu le contenu de l'article, je ne vais pas pouvoir le décrire vraiment en détail parce que dans son article, donc, Feeling the Futures, Daryl Bem propose 9 protocoles différents qui sont des protocoles qu'il a lui-même utilisés, donc il rapporte des résultats positifs, significatifs. Et c'est des protocoles qui ont pour caractéristique principale d'être des protocoles relativement bien connus en psychologie, dont il a tout simplement renversé la barre de la causalité. Pour donner un exemple plus concret, dans un des protocoles, le sujet, donc souvent un étudiant en psychologie de première ou deuxième année, va être devant l'ordinateur. Il y aura deux rideaux qui cachent, chacun des rideaux donc cache une image, et le sujet doit essayer de deviner ou de déterminer donc par prémonition derrière quel rideau va apparaître l'image. Donc mettons on a le rideau A et le rideau B, il va dire ben l'image va apparaître derrière le rideau A. Et puis alors il encode sa réponse dans l'ordinateur, et à ce moment-là l'ordinateur sélectionne une image et l'image apparaît donc de manière aléatoire derrière un des deux rideaux. Et donc soit le sujet, la prédiction du sujet était correcte ou fausse. Un des points qui a été particulièrement mentionné dans les médias, c'est que dans ce protocole par exemple, il y avait des images neutres, négatives, et des images érotiques, ce qui est souvent requalifié de pornographique dans les médias, c'est-à-dire qu'en gros l'hypothèse c'était que l'étudiant arriverait à par prémonition à déterminer mieux quand une image érotique, pornographique allait apparaître derrière les rideaux que quand c'était une image neutre ou négative. Donc en gros, ça a fait beaucoup rire dans les médias que par prémonition les hommes étaient capables, évidemment les sujets étaient aussi des femmes, je veux dire, l'idée qu'on fasse voir des images pornographiques à des étudiants et qu'on leur demande de déterminer à l'avance par prémonition où elles allaient apparaître et qu'on supposait qu'ils feraient un meilleur score avec des images pornographiques qu'avec tout autre style d'image, évidemment, se prêtait à beaucoup d'humour dans les médias. Ça, c'est un exemple de protocole sur les 9 protocoles, mais ils sont tous un peu dans le même style. Le premier sceptique à avoir commenté la publication de Daryl Bem fut Richard Wiseman sur son blog, et il a particulièrement commenté une erreur méthodologique qu'on trouve dans le protocole 9. Alors dans ce 9e protocole, ce qui se passe, c'est qu'on présente une liste de mots au sujet, de mots en anglais. Le sujet doit essayer de s'en souvenir, d'en mémoriser un maximum, et puis on lui demande d'écrire, de taper dans l'ordinateur les mots dont il se souvient. Et puis dans un deuxième temps, l'ordinateur sélectionne de manière aléatoire la moitié de ces mots et les représente au sujet. Et donc l'hypothèse, c'est que les mots qui sont présentés une deuxième fois, donc après que le sujet ait réalisé la tâche de tenter de se souvenir de ces mots-là, lorsqu'on leur présente une deuxième fois, cela va en fait favoriser de manière précognitive la tâche de souvenir. Donc au moment où ils doivent se souvenir des mots, ils se souviendront mieux, à cause de la précognition, des mots qui leur seront présentés une seconde fois dans le futur. Donc ça, c'est l'hypothèse. Donc, dans cette expérience, ils doivent taper une série de mots, mais bon, évidemment, de temps en temps, les gens vont taper avec des erreurs de frappe. Donc, par exemple, dans la liste, il y a le mot... On va prendre le mot 4. Il se pourrait qu'un sujet tape CTT. Ou bien il se pourrait qu'un sujet tape un mot complètement incorrect, mais qui ressemble au mot cible, par exemple le mot car au lieu de cat. Ce qui se passe, c'est qu'alors, des assistants de Daryl Bem devaient aller à travers les listes et corriger ces erreurs. C'est ok si c'est fait en double aveugle, mais dans la procédure, il apparaît que les assistants avaient non seulement la liste des mots dont le sujet avait encodé, mais aussi, à droite de cette liste, il avait les mots donc cible et les mots contrôle. Donc il savait exactement ce que le sujet était supposé répondre pour avoir un hit précognitif. Et donc, quid quand le sujet aurait dû dire 4 mais qu'il disait car, est-ce que l'assistant allait corriger dans le sens d'une précognition ou pas? Cette façon d'encoder qui n'était pas réellement, donc pas du tout en fait, en double aveugle, pouvait introduire
un biais inconscient au moment de ce type de correction. Il se fait que, heureusement, Daryl Bem avait sauvegardé la liste non corrigée par les étudiants, enfin les assistants, de ces mots, et donc il a pu vérifier, il a pu corriger par la suite cette erreur, et les résultats n'ont pas été modifiés, n'ont pas été influencés par ce problème. Néanmoins, c'est intéressant qu'une telle erreur méthodologique ait été découverte assez rapidement dans les protocoles proposés par Ben, qui sont supposés être parfaits. Et dans une réponse que donc Daryl Bem fait, où il explique que les résultats ne sont pas affectés lorsqu'il prend en compte la remarque de Richard Wiseman, il explique bien que la remarque de Richard Wiseman est tout à fait pertinente et qu'à l'avenir, ça ne serait plus fait de cette façon-là. Donc, il admet qu'il a fait une erreur de ce côté-là, même si elle ne change pas, elle n'affecte pas les résultats. Je trouvais que c'était intéressant dès le départ de voir qu'il y a des telles erreurs méthodologiques qui apparaissent dans les protocoles supposés être excellents de Daryl Bem. Mais évidemment, ce n'était que le début. Évidemment, la question est de savoir s'il est possible de répéter, de répliquer les résultats obtenus par Daryl Bem. Et avant même la publication de l'article dans le journal, une fois que le débat a débuté, il y avait déjà trois échecs de réplication qui étaient recensés. Le premier, c'est une réplication par Galak et Nelson, qui s'intitule « A replication of the procedures from Bem 2010 study 8 and a failure to replicate the same results ». La seconde, d'Europe de l'Est, alors je vais probablement massacrer son nom, je m'excuse à l'avance, Gergo Hadlaksky, qui s'intitule « Precognitive habituation, an attempt to replicate previous results ». Donc ces deux échecs de réplication-là. Et puis le troisième par Thomas Raberon, en collaboration avec Caroline Watt de l'Université d'Édimbourg. Alors évidemment, chacun, je dirais que du côté sceptique, on dit, ben voilà, il y a déjà, le papier n'est pas encore, Daryl Bem n'était pas encore publié, qu'il y avait déjà trois échecs de tentative de réplication. Bon, évidemment, on peut pointer sur le fait qu'il y a chaque fois des légères différences entre les protocoles de ces réplications et le protocole réalisé par Daryl Bem. Et bon, on peut utiliser ces différences pour tenter de justifier ces échecs de réplication. Par exemple, Galak et Nelson, 2010, cette tentative de réplication a été faite via Internet. Daryl Bem a suggéré que l'échec de réplication provient de ça, du fait que le test a été réalisé via Internet et pas en personne. Ok, je pense que de toute façon, il faut plus de tentatives de réplication, et puis il ne faut pas oublier qu'il y a 9 protocoles, donc... Ça fait du boulot, mais Richard Wiseman organise, on peut enregistrer les futures tentatives de réplication afin d'éviter l'effet tiroir. Donc pour ceux qui sont des doctorants universitaires qui veulent faire des tentatives de réplication, vous pouvez les recenser chez Richard Wiseman. Mais je dirais que le fait qu'il y a eu, avant même la publication de l'article dans la revue, 3 échecs de réplication, en tout cas, même bon, avec des légères différences dans les protocoles, mais enfin 3 quand même échecs de réplication des résultats de Daryl Bem, c'est pas un très bon départ, disons. Richard Wiseman et aussi Chris French ont discuté du fait qu'ils allaient aussi tenter de répliquer les résultats obtenus par Daryl Bem. On verra ce que ça donnera. Enfin, pour terminer cette présentation, enfin ma partie, James Alcock, qui est donc à mes yeux, un des meilleurs critiques sceptiques de la parapsychologie, a publié un article dans Skeptical Inquirer qui s'intitule « Back from the Future, Parapsychology and the Bem Affair » où il critique en détail l'article de Bem avec expérience par expérience des problèmes méthodologiques qu'il met en évidence. Évidemment, pour des questions de temps, je ne vais pas rentrer dans les détails de ces critiques ici, mais tous les liens que je mentionne seront dans les notes de l'émission, donc si vous voulez les consulter par vous-même. Oui, c'est un article qui vaut vraiment la peine d'être lu. Voilà, avant de passer la parole à Nicolas Gauvry, et donc aux questions plus statistiques, je vais vous passer l'audio de un extrait de The Skeptic's Guide to the Universe, dans lequel Stephen Nolovella discute de la recherche de Daryl Bem. Je trouve que c'est toujours intéressant d'avoir sa position, enfin son analyse sur le sujet. En fait, son intervention concernant l'article de Daryl Bem est nettement plus longue. J'ai juste sélectionné une partie qui me paraît particulièrement, enfin la partie centrale de sa critique. Si vous voulez entendre l'analyse totale, donc qui fait à peu près une quinzaine de minutes, je pense, elle se trouve dans l'épisode 281. De décembre 2010. Et en fait aussi, Stephen Novella et le reste des Skeptics Rogue, de Skeptics Guide to the Universe, ils sont revenus sur cette question-là dans un épisode ultérieur, mais plus sur la question du bayésianisme. Et ça, c'était dans l'épisode 288, donc un épisode de janvier 2011, si vous voulez entendre comment Stephen Novella présente le bayésianisme par rapport à cette recherche de Daryl Bem. Donc tout d'abord un court extrait en anglais de Skeptic's Guide to the Universe avec Stephen Novella et le reste de la bande, le reste de l'équipe. Et puis ce sera le tour de Nicolas Gauvry sur les aspects plus statistiques.
Here's the thing. Now, you know, we get challenged a lot on this, and there are some, you know, noisy, you know, believers in parapsychological research who will challenge us on research like this and say, listen, this guy's a psychologist. He's done a lot of, you know, standard research that is, you know, published in peer-reviewed journals. He's a real, quote-unquote, real scientist. And on paper, you know, his research design seems very solid. So they would say, tell me where is the flaw in the research design? And if you can't point to a flaw in the research design, then you have to accept that this is evidence of psi. Otherwise, you're being biased, right? But that kind of reproach comes in the absence of history. Now, if we step back and take a look at this research in the context of parapsychological research throughout history, you get a different picture. What I've summarized it, because we've also been challenged by saying, what would it take for you to believe then? What would it take? What kind of evidence would it take before you would say, okay, that's compelling evidence of some kind of anomalous cognition? And what I said was, and what I have said is that, well, I would find compelling research where there was rigorous design, a sizable effect that's not only statistically significant, it's actually a big effect, and it was replicable. And so no matter who did that research, that followed that protocol, they would get similar results. What you don't find is any research that matches all four of those criteria at the same time. There's no psi research that has a big, significant, rigorous, replicable effect. You find some results are poorly designed and replicable, or rigorously designed and minuscule and not replicable, but you never get them all at the same time. Mm-hmm. And what the proponents do is they play a game where they say skeptics are wrong because they say that psi research never has big effects. Well, here's one where there's a big effect. And they say they're wrong because they say that psi research never is replicable. Well, here's one that's replicable. But they miss the point that it's got to be all of those things at the same time. They're playing a shell game. They're playing a shell game with the research.
And also, don't forget, a mechanism would be nice once in a while.
But they don't like that, though.
I would like to see that once in a while.
Yeah. But then, you know what they're going to say, you know, that we can establish the reality of phenomena before we understand the mechanism.
True.
And it's true, but it does, this is also something they don't get, it does affect where you set that bar of evidence.
Dans son article, Daryl Bem utilise des statistiques inférentielles classiques qu'il faut absolument comprendre, ou au moins il faut comprendre la philosophie des statistiques inférentielles classiques pour pouvoir comprendre où est l'erreur dans le traitement statistique qui est fait des données. Voilà comment fonctionnent les statistiques inférentielles classiques. D'abord, le but de toutes les statistiques inférentielles, c'est de pouvoir généraliser avec un risque d'erreur contrôlé au moins et relativement faible, généraliser un résultat qu'on a observé sur un échantillon à un résultat général. Donc on va pouvoir dire que ce qu'on a observé sur notre échantillon est valable un peu plus généralement pour toute la population. L'hypothèse que Bem veut tester, c'est l'hypothèse qu'il existe une perception extrasensorielle et qui nous permet, ou même une précognition, qui nous permet de deviner à l'avance où va apparaître l'image. Donc ça peut être à gauche, à droite, et si c'est bien fait, et apparemment de ce point de vue-là c'est bien fait, c'est-à-dire que BEM a choisi un générateur aléatoire tout à fait fiable et qui pose aucun problème de ce point de vue-là, si c'est bien fait, donc, et ça semble être le cas, voilà comment ça marche. On va demander aux gens de déterminer si l'image est soit à gauche, soit à droite. A priori, s'il n'y a pas de perception extrasensorielle, s'il n'y a pas de précognition, les gens vont réussir une fois sur deux à chaque essai. Globalement, sur une centaine d'essais, disons, ils vont donc réussir 50 fois. Mais on comprend bien que certains vont réussir un peu plus par hasard et d'autres un peu moins par hasard. Tout l'art de la statistique inférentielle est de déterminer à partir de quel écart à la moyenne, c'est-à-dire à partir de quel écart à 50 réussites sur 100 coups, on va pouvoir conclure qu'il y a autre chose que du hasard dans cette affaire. Alors voilà comment ça marche. On pose d'abord, on présente comme ça les choses de cette manière en statistique, c'est peut-être un peu plus simple à comprendre, on pose d'abord une hypothèse dite hypothèse nulle. En l'occurrence, l'hypothèse nulle, ce serait « il n'y a pas de perception extrasensorielle ni de précognition, donc les gens ne peuvent pas savoir de quel côté va apparaître l'image ». Dans ce cas, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on l'a dit, il va se passer que les gens vont réussir à peu près 50 fois sur 100, et plus précisément, la distribution du nombre de réussites sur 100 coups devrait suivre une loi binomiale de moyenne 50, c'est-à-dire une loi de probabilité qu'on connaît, qu'on sait déterminer, assez facile à calculer. Et là, on va calculer quelque chose, et c'est grâce aux probabilités qu'on peut le faire, on va calculer la probabilité pour des réponses aléatoires de tomber juste dans 50% des cas, 51, 52, etc. Et on détermine de cette manière une limite. Donc mettons, parce que je n'ai pas fait les calculs, mettons que cette limite ce soit 60, hein, c'est-à-dire 50 plus 10, et on dira qu'on choisit cette limite si la probabilité d'avoir par hasard plus de 60 bonnes réponses est inférieure à 5%. Ce 5%, c'est ce qu'on appelle le risque. Donc vous l'avez bien compris, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je réponds au hasard, je vais dépasser 60% de bonnes réponses, si c'est bien 60%, dans 5% des cas. Et donc on va dire, compte tenu de l'hypothèse nulle, il devrait normalement y avoir une loi binomiale, les gens devraient répondre au hasard, s'il n'y a aucun moyen de savoir où va apparaître l'image, et donc ça ne devrait pas dépasser 60%, parce que si ça dépasse 60%, c'est quelque chose d'étonnant, étonnant puisque ça n'arrive qu'une fois sur 20. On utilise donc une méthode qui, s'il n'y a pas de perception extrasensorielle ou de précognition, échoue une fois sur 20, c'est-à-dire une méthode qui, 19 fois sur 20, nous dira qu'il n'y a rien de spécial et que ça ne prouve pas que les réponses ne sont pas aléatoires, et une fois sur 20, même s'il n'y a en réalité que des réponses aléatoires, cette méthode nous dira qu'il y a bien une précognition alors que ça n'est pas le cas. J'insiste un peu là-dessus parce que c'est tout à fait important pour la suite de la philosophie des statistiques inférentielles, on va le voir. Et la suite, c'est ce qui se passe lorsqu'on fait plusieurs tests pour tester la même hypothèse. Donc je reprends le même exemple, hein, je veux savoir si les gens arrivent à deviner si pile ou face va sortir ou non. J'ai dit, si je fais le test une fois, je vais simplement déterminer à partir de quelle grandeur, donc mettons 60 sur 100, l'écart à la moyenne de 50 est suffisante pour que je puisse dire ça peut pas être dû au hasard, ou du moins c'est improbable, parce que si on répondait au hasard, ce serait assez rare de dépasser 60 bonnes réponses. Mais maintenant, si je fais plusieurs tests, donc par exemple, je prends une personne, mais au lieu de faire une centaine d'essais, je fais deux séries de 100 essais. Et si je fais deux tests là-dessus, la probabilité que le premier test réussisse, c'est-à-dire que ça dépasse 60% de bonnes réponses, et donc j'ai dit de 5%, hein, mais la probabilité pour le deuxième test de fonctionner, c'est aussi de 60%. Et donc si je déclare qu'il y a un effet significatif à partir du moment où l'un des deux tests fonctionne, c'est-à-dire que dans l'une des deux séries d'essais, on a réussi à dépasser 60% de bonnes réponses, eh bien je commets là une erreur statistique monumentale, puisque tout simplement ça n'est pas 5%, donc le risque n'est plus de 5%. Quand on veut absolument faire deux tests, ce qui est normalement tout à fait déconseillé, deux tests pour la même hypothèse, ce qu'on fait normalement, c'est corriger pour les tests multiples, on dit. C'est-à-dire qu'on va imposer non pas le 60 de départ pour chacun des deux tests, 60 qui correspondrait, donc, mais je pense, on va poser ça comme ça, qui correspondrait à 5%, on va chercher à partir de quelle valeur on a 2,5% de chance de dépasser cette valeur au hasard. Et donc chacun des deux tests doit être fait au risque de 2,5% pour que globalement les deux tests mis ensemble soient valables au risque de 5%. Dans la première expérience de BEM, je ne vais pas parler des neuf, je parle que de la première, mais le même problème se retrouve dans les neuf expériences de BEM. Dans la première expérience, il fait des calculs, BEM fait des calculs statistiques pour les séries de photos dites érotiques, pour les séries de photos dites neutres, pour les séries de photos dites négatives, si je me souviens bien, et pour les séries de photos positives mais non érotiques. Autrement dit, il fait quatre tests. Ce que préconise alors un statisticien, si on veut avoir une conclusion globale au risque de 5%, c'est de choisir pour chacun des tests un risque limite de 5 divisé par 4%, donc à peu près 1%, on va dire, et non pas 5%. Alors en l'occurrence, ça marcherait, parce que le test positif de BEM est positif au risque de 1%. Et donc ça irait de ce point de vue-là. Sauf que BEM va un peu plus loin à deux égards. D'abord, chacune des séries, des quatre séries, est testée deux fois avec deux tests statistiques, ce qui fait que ce n'est pas quatre tests, c'est bien quatre séries qu'il teste, mais chacune deux fois, donc il fait huit tests. C'est-à-dire qu'il faudrait, pour chacun des tests, imposer un risque maximum de 5 divisé par 8. Et là, déjà, ça ne marche plus. Les résultats de BEM ne sont pas significatifs. Mais on peut encore aller plus loin, parce que BEM fait une hypothèse très forte, il utilise des tests qu'on dit unilatéraux. Le test standard en statistique est bilatéral. Bilatéral, ça veut dire que quand je fais ma série de tests, je vais conclure qu'il y a un effet qui n'est pas dû au hasard à partir du moment où les réponses des sujets sont soit souvent correctes, donc par exemple on a dit tout à l'heure dans plus de 60% des cas, soit souvent fausses. Et pourquoi ? Tout simplement parce que si quelqu'un arrive à répondre systématiquement faux quand il essaye de deviner si c'est pile ou face qui sort, je pourrais bien sûr en conclure là aussi qu'il y a un effet au-delà du hasard. Autrement dit, si les résultats sont très élevés, beaucoup de réponses correctes, ou très faibles, très peu de réponses correctes, dans les deux cas, je pourrais dire que l'hypothèse de la précognition est vérifiée. C'est donc un test bilatéral qu'il faudrait normalement utiliser. Pour utiliser un test unilatéral, il faudrait avoir de fortes raisons théoriques de penser que si les gens arrivent à deviner de quel côté se trouve l'image, alors ils vont forcément répondent de manière correcte dans plus de la moitié des cas, et ça, il n'y a pas ce test. Il n'y a pas cette hypothèse, il n'y a aucune raison théorique, en tout cas, s'il y en a une, elle n'est pas énoncée dans l'article de BEM, qui permet de faire cette hypothèse. Et d'ailleurs, on peut très bien imaginer l'effet inverse pour plusieurs raisons. Une première raison, c'est que les parapsychologues affirment assez souvent que ceux qui ne croient pas à la parapsychologie ont tendance à se tromper plus d'une fois sur deux. Donc au contraire, il faudrait tester avec un test bilatéral et non pas unilatéral. Et la deuxième raison, c'est que lorsqu'il s'agit d'images érotiques, on peut tout à fait penser que la plupart des gens sont gênés lors d'une expérience de découvrir une image érotique et auront tendance, de manière peut-être inconsciente, à éviter, au contraire, s'ils savent où se trouve l'image, à éviter de répondre en donnant la bonne image et choisiront plutôt le côté blanc de l'écran. Donc BEM fait 8 tests au lieu de 1 et en unilatéral au lieu de bilatéral. Or, un test bilatéral, c'est l'équivalent de 2 tests unilatéraux. Ce qui veut dire que ce qu'a fait BEM, c'est l'équivalent de 16 tests, pour l'expérience 1, je parle. Et ça veut dire que si on veut une conclusion valable au risque de 5%, il fallait prendre pour chacun des tests évoqué par BEM, un risque limite de 5 divisé par 16%, c'est-à-dire 0,33%, et ça n'est pas du tout le risque observé par BEM, puisque dans les deux cas, les deux tests où ça fonctionne, il arrive à 1%. Voilà donc une erreur statistique grossière que les statisticiens découvrent très facilement, parce que pour eux c'est quelque chose d'assez évident, mais il faut quand même dire à la décharge de BEM, parce que il a une formation de psychologue, et il faut quand même dire que malheureusement, les psychologues ont un vrai problème avec les statistiques, et ça c'est quelque chose qu'on observe régulièrement, y compris dans les plus prestigieuses revues. Et ce problème, c'est que s'ils sont tout à fait friands de nouveautés statistiques, et s'ils tiennent au courant des dernières nouveautés, des inventions des statisticiens, et si eux-mêmes inventent des méthodes statistiques, ils ont en revanche, ça c'est quelque chose qu'on observe partout, hein, pas seulement dans le monde francophone, mais aussi dans les grandes revues internationales, ils ont énormément de mal à comprendre et à, ou à tenir compte, en tout cas, de la base et de la philosophie des statistiques. Ce qui fait que bien souvent, ce qu'on trouve dans les articles de psychologie, c'est ce qu'on trouve aussi chez BEM, c'est-à-dire la multiplication des tests. Et dans l'esprit, je suppose, dans l'esprit des auteurs et des éditeurs de revues scientifiques, le fait qu'il y ait beaucoup de tests, ça confirme quelque chose, ça veut dire qu'on a bien travaillé, alors que statistiquement, évidemment, il vaut mieux faire un test et un seul qu'en faire beaucoup. Et plus on fait de tests, moins c'est sérieux. En tout cas, pour une hypothèse, il faut absolument faire un test, et si on en fait plusieurs, pour une raison à justifier, il faut absolument corriger l'erreur pour le nombre de tests utilisés. C'est un peu cette idée qui est présentée dans l'article critique de Wagenmacher et ses collègues, qui critiquent donc l'expérience, ou plutôt la publication de Daryl Bem. Dans une première partie, dans cet article, ils disent, puisqu'ils sont plusieurs, ils disent que le problème est la confusion entre les études exploratoires et les études confirmatoires. Alors ça, je vais juste expliquer en un mot pourquoi ça rejoint ce que j'ai dit avant. Dans une étude exploratoire, comme son nom l'indique, on cherche simplement à découvrir d'éventuels effets, d'éventuels liens, corrélations, etc. Et dans ce cas, il est tout à fait justifié, bien sûr, de multiplier les tests, de faire des 50, 100, pourquoi pas, des centaines de tests, après tout, pourquoi pas, avec cette idée que si on découvre dans l'un de ces tests un effet, eh bien, ça correspond peut-être à quelque chose qu'il faudra ensuite tester. Mais il faudra ensuite le tester pour la bonne raison que, évidemment, puisqu'on a fait une centaine de tests, les résultats sont absolument pas concluants, puisqu'il faudrait corriger pour la multitude de tests, et en l'occurrence, très probablement, aucun des 100 tests ne dépasserait le seuil autorisé. Dans une étude confirmatoire, au contraire, on essaye de confirmer une hypothèse qu'on a pu faire, par exemple, avec une étude exploratoire, et dans ce cas, à l'opposé de ce qui se passe pour les études exploratoires, il faut limiter au maximum le nombre de tests, et je le dis tout à l'heure, l'idéal est évidemment de n'avoir qu'un test pour une hypothèse, et ce test doit être absolument, c'est fondamental, doit être choisi avant l'expérience. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas seulement de publier un test, il s'agit de ne faire qu'un test de toute manière, quoi qu'il arrive. Alors je précise ça pour dire que parfois on trouve aussi dans certains articles des hypothèses qui sont testées une fois, mais en réalité le test qui est présenté dans la publication a été choisi après coup parmi 5 ou 6 tests parce que c'est celui qui fonctionne, et ça c'est complètement faux. À partir du moment où on n'a pas décidé avant l'expérience, quel test on allait faire, quel test unique, eh bien, il faut corriger, même si on n'a pas fait les tests qui suivent. C'est-à-dire, si vous imaginez que vous pourriez faire 5 tests et que finalement vous n'en faites qu'un parce que le premier fonctionne, il faut quand même corriger pour le nombre de tests. Voilà pourquoi il est très important et beaucoup plus efficace de choisir un seul test pour une hypothèse avant de commencer l'expérience. Voilà, on voit ici que l'article de Bem, donc, qui souffre de défauts méthodologiques qui ont été mis en avant, critiqués par d'autres auteurs, souffre aussi d'un gros problème statistique. Your guru assures if you follow his regimen, you will become a most excellent specimen. The power to live on and on for all days is right at your fingertips if someone pays. He says that his aura will keep you alive for 3 easy installments of $10.95. Device he uses sucks out the bad juices and leaves no bad bruises. It simply deduces the proper percentage of X in your brain. This miracle cure leaves no permanent pain. And still, you can't believe what a skeptic I am. I can't believe you believe in that plan. But I still give a damn. Your astral projections are coming along. Your chakra and chi are both growing real strong. Your cold disappeared after just 9 short days, all thanks to the words on the whole earth displays.
now due to the juices and pills and the creams. Your body's lost toxins, whatever that means. You've stopped eating all of that sinister food. Your dinner tastes awful, so it's gotta be good. But still, you can't believe what a skeptic I am. I can't believe you believe in that sham. We disagree, but I still give a damn. The ramification of treatments from holy men leaves me slightly queasy deep down in the abdomen. Convinced that the lives that they lead need adjusting, they drive to the bookstore and blindly start trusting the miracles and cures all laid down in black ink, never even bothering to stop and think. The only real power that I do believe is the dollars and cents all these authors receive. If miracle wonders were held in their looks, why waste precious time and try selling their books? Why sit and wait for your publishing royalty? If one has real power, who needs real loyalty? If you could travel by thought to a mystical place, why go to book signings and vie for shelf space? Why would you wait for your agent to call you in vain and try to convince you he's worth 12%? Why would you bother with talk shows and a crazed publicist? Why deal with the people that repeatedly insist that you show them real proof that your powers exist? Hey, convince some real skeptics or cease and desist. For us, to miss 6 months from now, you folks will not be missed. What is the moral that we all must learn, especially those of us with money to burn? Before your eyes widen at the book on the shelf, think, is he helping you, or is he helping himself? Can't believe what a skeptic I am. You should believe what a skeptic I am.